vendredi 5 avril. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, au menu aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix du Japon. Au cours des prochaines minutes, je vais vous dire ce qui s'est produit lors des deux séances d'essais libres, vous fournir mes analyses, vous informer sur les différentes améliorations qui ont été apportées par les écuries, et pour débuter, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friend Sim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, il y a de l'action chez l'équipe Orange Papaye, c'est-à-dire McLaren, pour une deuxième saison consécutive. On a procédé à un remaniement du côté de notre département technique. C'est David Sanchez, seulement 3 mois après être arrivé de l'écurie Ferrari. Eh bien, on en est venu à un commun accord de mettre un terme à notre relation. Donc, on n'allait pas dans la même direction qu'on voulait. On n'est peut-être pas non plus heureux du début de saison chez McLaren, quoiqu'on a réussi à accumuler des points, mais je pense que c'est plus une question de philosophie qui ne fonctionnait pas. Donc, on a décidé de mettre un terme à cette relation-là d'un commun accord après plusieurs discussions. Fraîchement arrivé de chez Red Bull, c'est Rob Marshall qui assumera désormais le rôle de concepteur en chef pour l'équipe. Et c'est Neil Uldi qui a été transféré au poste de directeur technique de l'ingénierie, tandis que Peter Podromou, lui, continuera à exécuter son rôle de directeur technique de l'aérodynamique. Pour ce qui est du département de concept et de performance, ben on va le réorienter pour se concentrer uniquement sur la performance. Et c'est le directeur d'écurie, Andreas Stella, qui assumera l'intérim en attendant de trouver un remplaçant. Du côté de McLaren, ben on a aussi du nouveau, on a une nouvelle livrée pour le week-end au Japon, qui a été justement, c'est un concept d'un artiste japonais, et accrochez-vous bien là, peut-être que vous n'avez pas remarqué ça, et que ça va vous prendre plusieurs moments de voir les voitures en piste ou à la télévision du moins, pour être capable de comprendre un peu l'œuvre de l'artiste japonais. On veut symboliser un dragon qui vole dans les nuages. Donc, moi, je ne l'ai pas vu du premier coup. Il a fallu que j'aie l'explication, puis même là, ben, c'est assez discret. Mais c'est l'œuvre d'un artiste qui, c'est ça, lui, il a décidé de faire ça pour le week-end. Donc, soyez pas surpris de voir qu'il y a des couleurs un peu différentes sur la McLaren, mais c'est quand même assez discret. Je peux vous dire personnellement que ce n'est pas nécessairement ma livrée favorite qu'on a accomplie du côté de l'écurie britannique. Dans les dernières saisons, on nous a habitués à toujours réussir. Vraiment, là, c'était des chefs-d'œuvre. Je repense à la livrée Golf là, qui me vient en tête plus précisément, là, qui était magnifique, celle qu'on avait utilisée à Monaco il y a quelques saisons. Eh bien, elle n'est pas du tout dans cette trempe-là, celle qu'on nous propose pour ce week-end-ci au Japon. Du côté de Lawrence Stroll et de Aston Martin, ben c'est la rumeur là, qui cesse de revenir un peu, là, d'attirer l'actualité. Vous savez que au F1 Podcast, ce n'est pas vraiment mon fort là, de vouloir de jaser de toutes ces rumeurs-là qui sont parfois plus ou moins fondées, mais vous étiez nombreux à m'envoyer des messages pour dire que ce serait le fun que vous fassiez des chroniques des fois, en parler un peu, nous dire si on devrait croire ce qu'on a lu ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vers ça, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Eh bien, la rumeur qui est souvent mentionnée, c'est le fait que Lawrence Stroll aurait déposé une offre en bonne et due forme à Adrian Newey, qui est, vous savez, là on l'appelle souvent le magicien, qui est derrière le concept des Red Bull, du grand succès de la RB19, de la RB20. Bien sûr, il y a toute une équipe autour de lui, il y a un pilote comme Max Verstappen, mais les concepts, là, c'est vraiment un génie qui a fait ses preuves à travers plusieurs écuries, beaucoup de succès, et c'est aussi quelqu'un qui maîtrise absolument bien le côté effet de sol. Donc, c'est un peu normal que du côté de Lawrence Stroll, on veut essayer d'acquérir ses services, au moins pour 2026. C'est un gars aussi qui a une bonne connaissance de Honda. Il a bien travaillé avec. On sait qu'il a aidé Honda à mettre leur projet qu'on avait essayé du côté de McLaren de former un moteur size zero, donc un moteur qui est beaucoup plus petit que la normale et qui permettait à Adrian Newey d'être capable de de mieux emballer la voiture, donc de mieux faire un partage de poids, parce que vous savez que le ballast, le transfert de poids sur une Formule 1, c'est excessivement important. Donc, en ayant un moteur plus petit, on était capable un peu de mieux assembler la voiture. Donc, c'est un des secrets derrière le succès des dernières années chez Red Bull. Donc, le partenariat avec Honda, la flexibilité, et ce que Adrian Newey a réussi à prendre un projet qui n'avait pas fonctionné pour Honda chez McLaren et le faire fonctionner chez Red Bull. Donc, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que en 2026, eh bien, Honda va se rejoindre à l'équipe de Lawrence Stroll. Donc, il y a un peu ce partenariat-là. Il y a aussi le fait que, par le passé, vous savez que Aston Martin, c'est aussi une marque de véhicule. Donc, pour une voiture qui était un hypercar qu'on appelle la Valkyrie, on avait fait appel à, justement, Adrian Newey pour aider à ce concept-là. Donc, il y a déjà eu du travail entre ces deux-là. On se connaît. Il y a aussi le fait qu'Aston Martin a déjà été commanditaire de l'écurie Red Bull par le passé. Donc, on n'est pas en terrain inconnu là, quand vient le temps de parler entre les deux parties. Adrian Newey connaît des gens chez Aston Martin. Donc, oui, on peut dire que il y a une certaine base à tout ça, là. Ça peut être un. Il se retrouverait pas en terrain inconnu. Sauf que ces rumeurs-là, ben, vous savez, ils reviennent à tous les années. L'année dernière, on était au même stade de la saison. On était en pleine rumeur comme quoi il s'en irait probablement chez Mercedes, que son contrat n'avait pas été renouvelé chez Red Bull. Puis finalement, quelques semaines plus tard, on a entendu qu'il avait signé avec Red Bull. Puis normalement, ce qu'on nous avait annoncé à ce moment-là, au même stade de la saison environ l'année dernière, c'est qu'il avait signé un contrat long terme. Donc c'est un peu spécial que ça revienne sur la table. Sauf que, je vous mets en situation. Si vous êtes un directeur ou un propriétaire d'écurie, puis vous ne faites pas les démarches pour acquérir l'un des meilleurs concepteurs de voitures de tous les temps, est-ce que vous avez vraiment votre place en Formule 1? Vous savez que c'est pas donné à tout le monde, là. Haas peut pas demain matin soumettre une offre à Adrian Newey. Mais si vous êtes un Lawrence Stroll, puis que votre plan que vous avez annoncé, que vous cachez pas, là, que c'est dévoilé au grand public, que d'ici 5 ans, vous voulez tourner votre écurie en une écurie championne, puis vous ne faites pas les démarches pour mettre sous contrat s'il y a une possibilité d'aller chercher un gars comme Adrian Newey, est-ce que vous faites vraiment votre travail? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Lawrence Stroll n'a pas le choix d'essayer d'aller chercher les services de Adrian Newey. Est-ce que ça va fonctionner? Ben, c'est seulement l'avenir qui va nous le dire. Est-ce que faut bouleverser le monde de la Formule 1 à cause que ça a été fait? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste Aramco et Lawrence Stroll qui font ce qu'ils doivent faire pour essayer d'amener l'écurie à un autre niveau. Du côté de Ferrari, ben, on essaye aussi d'aller chercher les services de Newey. Là, ce qui a fait un peu activer les réseaux sociaux et tout ça, c'est le fait qu'on aurait proposé 25 millions par année à Newey pour ce concept-là. Vous savez que Adrian Newey, autant chez Red Bull, n'est pas rémunéré des petits montants, là. Il gagne des gros montants pareils. Donc que là, on se trouve à des chiffres de 25 millions, ben c'est pas sorti de l'ordinaire tant que ça. C'est pas quelque chose qui lance tout le monde à terre, là. Oui, ça paraît gros de dire oh, il a proposé 100 millions à Adrian Newey, mais Adrian Newey est déjà très bien rémunéré chez Red Bull. Je vous dis pas qu'il gagne 25 millions par année, mais c'est pas quelque chose qui va. Il en gagne pas 4 non plus, là. T'sais, c'est pour vous mettre en perspective, là. Puis, ce qui peut attacher un peu le fait que Adrian Newey pourrait rester chez Red Bull encore aussi, c'est le fait que on a un projet qui est sous la table, qu'on a fait ça un peu pour y faire plaisir, puis aussi être sûr de garder ses services, c'est qu'on veut lancer une voiture de rue chez Red Bull. Donc, on a plusieurs niveaux à notre entreprise, là. On a plusieurs chapeaux. Donc, on a Red Bull Technology qui est en train de mettre sous pied un hypercar aussi, un peu comme la Valkyrie d'Aston Martin qui va s'appeler la RB17. Et ça, c'est vraiment le bébé de Monsieur Newey, là. Depuis plusieurs saisons, on travaille là-dessus. C'est son rêve, lui, d'avoir une voiture de route. Ça va être une voiture en édition limitée. Donc, même tout ça, là, on travaille encore sur ce projet-là. Puis, on annonce que cette sortie-là était prévue pour 2026. On n'a pas eu trop de développement, là. Je vous dirais que dans les 6 derniers mois, on a entendu qu'on aurait beaucoup de nouvelles en 2024 concernant ça, un possible lancement, des photos, tout ça, mais que tout se préparait pour 2026. On avait même avancé des prix pour ces choses-là. Pour l'instant, vous savez, il s'est passé plein de choses chez Red Bull. On a eu, bien sûr, le début de la saison, mais il y a eu plein d'autres histoires autour de ça. Fait qu'on n'en a pas trop entendu parler de cette fameuse RB17-là, mais il y a ce projet-là qui est sur la table. Donc, pour moi, je me dis que tant que ce projet-là n'est pas rendu à terme, je pense j'ai du mal à croire que Adrian Newey quitterait Red Bull. À moins que le projet tombe à l'eau puis que c'est plus quelque chose qu'on va avancer, ben là, je serais pas surpris qu'ils veulent quitter parce que l'ouverture à pouvoir faire des voitures de route, Pour avoir une voiture à son nom, de concept, une voiture, un hypercar, et ça, la porte serait ouverte chez Aston Martin, puis serait aussi ouverte chez Ferrari. Sauf que, est-ce qu'il aurait la même fierté de faire une voiture pour Aston Martin, qui ont déjà des voitures de route, ou pour Ferrari, que vous savez, là, c'est le domaine du supercar et du hypercar, eux autres, ils sont connus plus pour ça, là. Donc, c'est leur domaine. Donc, est-ce qu'il aurait la même fierté d'accomplir une voiture comme ça, ou plus d'en faire une chez Red Bull, qui est à la base, une compagnie de boissons énergisantes qui a été monté sur pied, qui est là depuis le début, lui, en 2005. Donc, de monter ça et d'en arriver à produire une voiture qui est vendue, là. C'est sûr que c'est pas vendu à Monsieur Tout-le-Monde, on s'entend, là, ça va être des montants astronomiques. Là, on avançait des 6 millions de dollars. Donc, il y a encore ce projet-là sur la table. Donc, il y a toujours quelque chose pour possiblement, là, on avait mis ça sur pied justement pour retenir ses services. Donc, tant qu'on n'aura pas un peu plus de détails sur ce qui se passe avec ça, j'ai du mal à le voir partir. Mais on ne sait jamais, ça peut changer vite en Formule 1. Puis, Adrian Newey, par le passé, il a déjà fait le saut d'une écurie à l'autre. Il est déjà parti de chez Williams pour s'en aller chez McLaren. Il est déjà parti de chez McLaren pour s'en aller chez Red Bull. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il veut aller relever d'autres défis. Pour ce qui est de l'actualité, toujours on poursuit, bien, c'est Lewis Hamilton qui a eu, vous savez, il connaît le pire début de saison de sa carrière. Puis il y a une autre mauvaise nouvelle. En Australie, son abandon, donc son moteur, ce que ça a fait, c'est qu'il va se retrouver à ce qu'il lui reste trois groupes motopropulseurs pour les 21 prochaines courses. Donc, les 21 dernières courses de la saison, ce qui reste au calendrier, il aura que trois groupes motopropulseurs. Donc, il devra compenser avec ça. On peut déjà croire qu'il pourrait avoir des possibles pénalités qu'il devra prendre au courant de la saison à cause de ça, là. Ça, c'est dû, ben, justement, à l'abandon en Australie. Son moteur, c'est un problème de conception, qu'on a eu. Puis, on n'a pas pu le récupérer, là. Les dommages que ça l'a causé, ben, il a été déclaré perte totale. Donc, automatiquement, ben, on est obligé, d'aller piger dans notre réserve tôt dans la saison. Donc, on part un peu, là, c'est encore une mauvaise nouvelle un peu pour lui. Donc, ça va être à voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand est-ce qu'on va décider, là, on va écouler toute notre réserve de moteur puis qu'on devra commencer à prendre des pénalités en sortant de la location qui est permise pour chaque saison. Une autre nouvelle, soyez pas surpris en fin de semaine si vous voyez Charles Leclerc porter un casque avec le numéro 17. Vous savez, le Monégasque a le numéro 16 en Formule 1. Là, il va avoir le numéro 17 sur son casque. Eh bien, c'est en l'honneur de Jules Bianchi. Jules Bianchi, qui portait le numéro 17, c'est un numéro qui est même retiré d'ailleurs. Lui qui avait perdu la vie au 42e tour du Grand Prix du Japon en 2014. Eh bien, il avait eu un accident, là. Vous rappelez pas de la situation, bien, c'était assez triste. Il pleuvait, puis on avait envoyé un espèce de bulldozer en piste. Puis Jules Bianchi, on fait plus ça, là. Malheureusement, il a fallu que lui, il paye sa vie pour qu'on réalise que ça n'avait pas d'allure d'envoyer ces mastodontes-là en piste. Eh bien, il a rentré en collision avec lui, avec le bulldozer en question. Puis là, ce qui est arrivé, bien, c'est que ça, c'est au Grand Prix du Japon 2014. Il a resté 9 mois dans le coma, puis il est décédé par après ça. Donc, ça va faire 10 ans cette saison. Le Grand Prix du Japon est plus tôt dans la saison. Donc, ça va faire déjà 10 ans de ça. Donc, pour l'honorer, Charles Leclerc portera un casque qui lui rend hommage. Jules Bianchi, là, c'était aussi le parrain sportif de Charles Leclerc. Donc, quand la famille Leclerc avait des problèmes financiers, puis qu'on était sur le point de mettre un terme à la carrière de Charles, eh bien, c'est Jules Bianchi qui avait été rencontrer son manager, là, son gérant, qui est le fils à Jean Todt en tant que tel. Donc, il avait été le rencontrer pour lui parler de Charles. Il avait réussi à le convaincre de prendre Charles. Même que Nicolas Todt avait déjà mentionné qu'il le fait seulement parce que pour faire plaisir à Jules, qui n'avait pas vraiment d'intérêt envers Leclerc. Puis finalement, après ça, il a réalisé qu'il était un bon gars, une bonne personne et surtout un bon pilote. Donc, il a mis les efforts pour l'aider à monter. Puis finalement, on sait, vous savez ce qui est arrivé avec Charles Leclerc. Bien, aujourd'hui, il est en Formule 1. Mais c'est ça, il est très redevant. C'était son parrain. C'était aussi un ami de la famille. Donc, il lui rendra hommage lors du week-end au Japon. Eh bien, c'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons aux essais libres qui avaient lieu vendredi sur le circuit de Suzuka. Vendredi, journée d'essais libres au Japon, deuxième de trois grands prix consécutifs qui se déroulent aux petites heures du matin pour bien des gens dans le monde. C'est aussi la première fois en 38 ans que le Grand Prix se tient aussi tôt dans la saison. Suzuka, c'est un circuit généralement très apprécié des amateurs de F1 ainsi que des pilotes avec de longues courbes rapides, notamment les S dans le premier secteur, l'enchaînement Dagner ainsi que les 200R et 130R, pratiquement tous les virages là, à Suzuka sont légendaires. C'est aussi un des rares circuits dans le monde qui est fait en forme de 8. Donc, on repasse, le circuit se croise. Et quand on termine un tour, bien, on a tourné aussi souvent à droite qu'à gauche. Donc, il faut vraiment bien balancer la voiture et être sûr d'avoir. C'est pour ça que c'est assez dur sur les pneus parce que normalement, on use toujours un côté plus que l'autre, mais ce n'est pas le cas. Au Japon, les deux côtés vont être autant usés. Donc, c'est assez dur pour les pneumatiques. Il existe aussi là, des parties un peu plus lentes. On pense à l'épingle, on pense aussi à la montée ou même à la chicane où c'est possible de tenter des dépassements. Par le passé, là, ça nous a habitués là, que c'est devenu un théâtre Red Bull là, dans les dernières saisons. Si on n'a qu'à penser au championnat du monde de Max Verstappen qui s'est gagné là, ou plus récemment la saison dernière, Red Bull a été consacré champion des constructeurs. C'est d'ailleurs un circuit qui a été conçu par comme banc d'essai pour la marque Honda, après que le patron de la marque japonaise en ait fait la commande en 1962. Donc, un petit hasard là, que Red Bull a eu du succès-là dans les dernières saisons, eux qui sont associés à la marque Honda. Les améliorations pour le week-end, ça c'est toujours important de savoir qui a apporté quoi. Eh bien, on a 8 des 10 écuries qui ont du nouveau matériel, notamment Red Bull. Red Bull, là, on attendait, il y a eu plusieurs rumeurs, des gens disaient « Oh, on s'en va vers le zéro ponton, c'est là que ça va être le zéro ponton. » Eh bien, il n'y en a pas de zéro ponton, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans la saison, qu'on n'aura pas ça, c'est pas dans nos plans, mais pour l'instant, si c'est pas ça, on a toujours des pontons sur la voiture, mais c'est sûr qu'on cherche toujours à les réduire. Là, on a encore une fois modifié notre système de refroidissement. C'est vraiment la grosse évolution là, sur la RB20. On cherche là, vraiment à gagner de l'espace, à envoyer plus d'air dans le plancher, mais tout en ayant un système de refroidissement qui reste adéquat. Oui, c'est assez froid au Japon, donc on peut se permettre. On a un peu modifié les entrées, donc les trappes. On a aussi un nouveau plancher avec encore plus d'appui sans perturber notamment, mais par exemple, la stabilité. Donc, on conserve notre stabilité, mais on réussit à aller chercher plus d'appui. Donc, ça, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour les adversaires parce qu'on en avait déjà beaucoup de ça. On en avait à revendre de l'appui chez Red Bull. On a aussi modifié les conduits de frein. Ça, c'est plus pour les caractéristiques de Suzuka. Comme je vous dis, c'est plus frais. On sollicite moins les freins aussi. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, on en a déjà parlé au podcast, les fameux conduits qui servent de refroidissement pour les freins, mais ça, ça vient perturber l'aérodynamisme d'une voiture. Donc, à ce moment-là, aussitôt qu'on est capable de réduire ça, bien, on vient réduire de beaucoup la traînée. Donc là, on se dit, on n'en a pas besoin à Suzuka. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie les conduits qu'on n'a pas besoin. Donc, on les rapetisse à l'avant de la voiture. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'on a pour le week-end. Donc, ça devrait nous donner une bonne amélioration quand même. C'est assez majeur comme ce qu'on a apporté dans nos coffres, c'est une évolution qui est assez majeure. McLaren, on fait la même chose. Là. On fait un copier-coller, pas du plancher, de tout ça, mais on y va aussi pour Suzuka. On a réduit nos conduits de frein à l'avant. C'est tout ce qu'on a pour l'instant pour McLaren. Donc, c'est ce qu'on mise. C'est plus en Chine qu'on devrait apporter une grosse évolution là, pour l'équipe orange. Donc, ça va être à surveiller. Ça, c'est dans 2 semaines. Pour ce qui est de Ferrari, ben, rien de majeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'est gardé les options pour avoir différents types d'ailerons, pour être capable de peut-être mettre plus d'appui si jamais on avait à courir dans la pluie. Donc, c'est ce qu'on a, mais on révolutionne pas notre voiture. On a connu un bon Grand Prix en Australie, donc on est peut-être confiant de ce qu'on a sous la main, puis on prépare plus, c'est plus vers Imola là, qu'on prépare une première amélioration majeure du côté de la Scuderia. Pour ce qui est d'Aston Martin, bien, je sais, il y a beaucoup d'amateurs d'Aston Martin, de l'équipe verte au Québec, donc vous serez content d'apprendre qu'on a emmené quelque chose de majeur. On vous parlait aussi de la situation que Mike Crack, le directeur d'écurie, mentionnait qu'on veut commencer on est en pleine campagne de séduction là, pour conserver les services de notre double champion, l'Espagnol Fernando Alonso. On veut l'impressionner au cours des prochaines courses. Donc, on s'est dit, là, je sais pas s'il y a un ultimatum qui s'est fixé à l'interne pour savoir quand est-ce qu'il allait prendre sa décision, mais on a mentionné qu'on voulait au cours des prochaines courses là, avoir des bons résultats et compliquer sa décision si jamais il voulait quitter, accepter l'offre d'une autre écurie, de lui montrer qu'on fait du progrès chez Aston Martin puis qu'on peut lui donner une voiture qui peut gagner. Mike Crack mentionnait notamment que ces champions-là ne veulent pas finir 5e, 6e, 7e, 9e, 10e, ils veulent se battre pour la victoire week-end après week-end. Donc, c'est ce qu'on veut lui offrir. Ça fait partie aussi de la vision d'entreprise qui a été élaborée par Lauren Stroll. Donc, on apporte C majeur, c'est une nouvelle géométrie de plancher et des nouveaux diffuseurs. Donc, avec l'effet de sol, là, toutes les fois qu'on modifie une géométrie de plancher puis qu'on change un peu les diffuseurs, mais normalement, on cherche vraiment à modifier la base de la voiture. Donc, ça va être assez intéressant de voir si on a vraiment réussi à aller chercher plus de performance au cours du week-end. Peut-être qu'on ne sera pas capable nécessairement de tout débloquer ça au Japon, mais sur quelques courses, là, c'est quand même quelque chose à surveiller. On voit qu'on veut faire du progrès puis on met les efforts pour être capable d'emmener la voiture à un autre niveau. Du côté d'Alpine, parler d'emmener la voiture à un autre niveau, ben là, eux autres, ça prendrait plus un miracle, là. Ben, nous autres, on a apporté des nouveaux ailerons pour réduire la traînée. On a des gros problèmes de traînée. On a une voiture qui est très lourde. On avait eu de la misère à passer les normes de sécurité en pré-saison. Donc, ça est venu un peu gâcher les plans du côté d'Alpine. Puis, on essaie de faire du gros rattrapage. Là, on est vraiment dans le trouble. On risque fortement de terminer la saison comme la pire écurie du peloton. Oui, c'est rassurant. McLaren, la saison dernière, avait retourné son équipe de côté. Sauf que, ouais, ça reste à voir. Là, on peut pas dire tout de suite. Là, il y a juste trois courses de fait, mais pour l'instant, ça sent pas bon dans le clan français. Mais au moins, on apporte des améliorations. Donc, à surveiller au cours du week-end. Du côté de Williams, là, on a eu ça rough un peu en Australie. Là, vous savez l'histoire du châssis puis tout ça. Mais là, nous autres aussi, on y va un peu comme ça. On apporte des ailerons qui peuvent s'adapter au circuit de Suzuka, mais aussi une nouvelle configuration sur l'aileron avant pour avoir une meilleure distribution de l'air autour des roues. Ça a été mentionné comme quoi que Alex Albon avait dit que justement il y avait eu des problèmes avec l'usure prématurée de ses pneumatiques. Donc, si on cherche un peu à distribuer l'air autour des pneus, mais c'est peut-être justement que l'aileron ne contrôlait pas bien le débit de l'air, donc l'écoulement d'air. Puis à ce moment-là, ben ça venait perturber le travail des roues, le travail des pneus. Puis ben c'est à ce moment-là, ben on avait une usure qui était prématurée. Donc, en ayant cet aileron-là, c'est peut-être quelque chose qu'on va réussir un peu à contrer, là, un des défauts qu'on avait décelé notamment depuis le début de la saison. Du côté de Racing Bulls, ben on a un nouveau plancher aussi. On va dans cette philosophie-là, quand même assez majeure de ce côté-là. Après ça, du côté de Sauber, ben on a aussi un nouveau plancher. On mentionne que c'est fait pour but d'obtenir une meilleure stabilité. On trouvait que la voiture était instable. C'est plate que dans les améliorations, on n'a pas mentionné essayer de corriger nos aréopuies. Puis ensuite, ben c'est ça, c'est ce qui complète les améliorations pour le week-end. On peut passer aux essais libres. Maintenant, les essais libres, ben, vous serez pas surpris d'apprendre qu'il est arrivé quelque chose, puis c'est du côté de Williams. Logan Sargeant a eu un violent accident en essais libres 1. Tout d'abord, là, c'est important de mentionner, parce que là, vous allez dire, ben là, j'ai de la misère à le suivre, lui. Vous savez, ça fait depuis l'année dernière, je vous dis, la première séance d'essais libres, on ne se fie pas à ça, on fout ça aux poubelles, c'est jamais vraiment représentatif. Mais cette semaine, on change la donne, c'est la seule séance qu'on va vraiment couvrir, parce qu'il y a seulement environ 5 voitures qui ont établi des temps dans la deuxième séance, à cause de la température. C'était pas de la grosse pluie, c'est juste que il tombait une petite pluie, puis là, les équipes, ils tombaient pas assez pour qu'on puisse faire des tests sous la pluie, puis c'était pas assez sec pour qu'on décide de faire des tests dans le sec. Donc on a attendu, on a attendu, on a attendu, puis finalement, le trois quarts du peloton a décidé de ne pas se présenter en piste. On n'a pas enregistré de temps. C'est un peu malheureux pour les gens qui étaient là sur place ou les gens comme moi qui étaient debout en plein milieu de la nuit pour essayer de voir des voitures de Formule 1 puis essayer de tirer des conclusions pour vous présenter ça avec certaines analyses. Mais au moins, on avait regardé la première séance qu'on pensait qui était peut-être pas si importante que ça. Puis finalement, c'est la seule qu'on a eue pour faire un peu d'études. Mais Logan Sargeant, lui, je reviens sur ce que je vous disais. Il y a eu un accident, encore là, des mauvais souvenirs de ce qui s'est passé en Australie pour James Vowles. Par exemple, il a réussi à pas endommager son châssis, mais il a quand même endommagé sa suspension, son aileron, et il a craqué sa boîte de vitesse. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles pour Williams. James Vowles donnait une entrevue, puis il y a même le journaliste Ted Kravitz, je sais pas si vous le connaissez, mais il est pour la chaîne Sky Sports, qui a posé la dure question en disant, dans les deux dernières séances d'essais libres, les EL1, c'est tes pilotes qui ont fait agiter le drapeau rouge. Pourquoi tes pilotes prennent autant d'accidents? Puis là, il y a eu un moment de silence, puis il a bien répondu, James Vowles, c'est un gars très posé, puis il a dit, ben, je pense pas que c'est nécessairement à cause des pilotes ou la voiture, je pense que c'est des circonstances, mais oui, il va falloir regarder ça. C'est sûr qu'on pose un stress sur nos pilotes en leur demandant de pas faire d'accident, puis des fois, ça fait le contraire. Les gars, ils savent qu'ils ont pas de pièces de rechange, mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour Logan Sargeant. Il pouvait pas participer techniquement à la deuxième séance de CD, mais ça a bien tombé que finalement, il n'y en a pas vraiment eu de deuxième séance. Donc là, on va avoir le temps d'essayer de réparer ça, la voiture, mais c'est quand même de valeur, là, qu'il n'y a pas eu encore une fois de pratique pour se préparer, puis toutes ces choses-là. Là, l'autre qui a été pénalisé, là, par Logan Sargeant, eh bien, c'est Daniel Ricciardo. Parce que Daniel Ricciardo, il laissait sa place. On en a parlé, là, la semaine dernière. C'est un Japonais qui prenait sa place. C'est Iwasa qui était là, là, un gars qui vient du programme Red Bull, qui est en Super Formula au Japon. C'est un Japonais. Donc, on voulait avoir un alignement entièrement japonais. Donc, on les a laissés, lui et Tsunoda, piloter les voitures, les Racing Bulls, lors de la première séance d'essai libre. Mais là, Daniel Ricciardo, qui est un peu, là, il se cherche en début de saison. Il a besoin de toutes les temps qu'il peut se retrouver derrière le volant pour essayer de prendre confiance. Mais là, on lui a enlevé la première séance de CD, puis là, la deuxième, bien, avec les circonstances, vous savez, il n'y en a pas eu. Donc, lui, pour l'instant, il y a zéro essai de fait, là. Il a peut-être, oui, il a fait un tour ou quelques tours, mais c'est rien, là, pour préparer un week-end en tant que tel, là, surtout quand on cherche à reprendre confiance. Donc, c'est lui, jusqu'à maintenant, là, qui se retrouve vraiment dans une mauvaise position. Pour ce qui s'est passé dans la première séance, eh bien, c'est Verstappen qui a été le plus rapide devant son coéquipier Perez. Sainte se suivit, Russell et Hamilton. Ça avait l'air mieux pour les Mercedes. On semble avoir trouvé une solution. Ça avait déjà été mentionné que c'est possiblement la chaleur qui leur cause des problèmes, même si à Bahreïn, c'était pas si chaud que ça. C'est ce qui a été avancé là, dans notre quête, là, à essayer de trouver un peu c'est quoi ce problème-là, tout ça. Mais tout ça pour dire, là, c'est plus froid au Japon, puis là, on semblait avoir une voiture plus stable. Sauf qu'on nous a habitués depuis le début de la saison que pendant une séance, tout va bien, puis la séance d'après, on ne sait plus ce qui arrive, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais là, du moins, Russell et Hamilton se sont retrouvés quatrième et cinquième. Leclerc, sixième. Alonso, septième. Piastri, huitième. Tsunoda, neuvième, qui est devant les siens au Japon. Dixième pour Norris, onzième pour Ocon, douzième pour Albon, treizième pour Hülkenberg avec sa Haas, quatorzième pour Bottas avec sa Kick Sauber Stack F1, Stroll, quinzième, Iwasa qui faisait les essais pour Racing Bull, seizième, 17e pour Gasly, Joe, 18e, 19e pour Magnussen et Sargeant a signé le 20e temps avant d'envoyer sa voiture dans le mur. Qu'est-ce qui est important là, pour le week-end à savoir? Là, on n'a pas beaucoup d'essais, on n'a pas beaucoup de choses qui ont été enregistrées. Il y a ce qui va venir un peu le pimenter, tout ça, c'est qu'on n'a pas réussi à tester. Vous savez, on appelle les courses longues, ou on peut vous dire les simulations de courses. Ça, c'est ce qu'on pratique. Normalement, on pratique ça soit à la première séance ou la deuxième. C'est surtout dans la deuxième séance qu'on pratique ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute du carburant à bord de la voiture, puis on essaie le plus possible de simuler le mode course. Donc, on met du poids, puis on demande au pilote de faire 15, 16 tours, 14 tours, 12 tours. On se trouve à ce moment-là, puis là, on accumule des données pour savoir l'usure des pneumatiques. Donc, souvent, on va faire ça en médium, puis là, ça nous donne une idée pendant la course de dire, OK, après 15 tours, on était rendu à ce niveau-là, donc on sait que nos intervalles d'arrêt au puits vont être balancés. On va être capable de faire du 16, 17, 20 tours, 22 tours. On est capable de se projeter dans le mode course, puis de dire, d'après ce qu'on a vu de ton usure de pneus, tu tournais avec tel temps, tes temps ont commencé à descendre aux environs de tel tour, donc on est capable de savoir que durant la course, on va être obligé de te demander de rentrer à peu près à ce temps-là. Donc, c'est toutes ces évaluations-là. Par contre, pour l'instant, à cause qu'on n'a pas eu la deuxième essai, ça n'a pas été fait. Donc, on s'en va dans le néant. Ça risque de donner de l'action, ça, de voir que, pour une fois, on va être capable de simuler un peu ce qui va se passer, sauf qu'on ne les a pas les données. On s'en va dans l'inconnu dimanche. Donc, ça va être de l'ajustement pour tout le monde et ça va être la meilleure équipe qui va avoir réussi un peu à faire la meilleure projection sans avoir ces données-là. Qui va peut-être réussir à se démarquer un peu, puis avoir une meilleure stratégie, des meilleurs arrêts au puits, puis ça va venir peut-être un peu bouleverser l'ordre du peloton. Donc ça risque d'être intéressant. C'est peut-être même il y en a qui avançaient, certains journalistes qui disaient ce serait peut-être intéressant qu'on fasse ça dans les prochaines saisons, qu'on empêche les équipes de pratiquer les simulations de course pendant les essais libres. Je pense pas que ça va passer au conseil, mais je comprends le concept un peu de dire d'envoyer un peu les voitures dans l'inconnu, les pilotes dans l'inconnu, ben ça peut donner un peu d'action. Moi, je suis pas pour ça parce que je pense que c'est un sport d'élite, on veut voir les voitures puis les écuries performer à leur meilleur. Donc si on les empêche, si on leur enlève des moyens d'être capable de trouver les meilleurs réglages puis nous donner le meilleur spectacle, le maximum de la voiture, ben ça devient intéressant aussi, sauf que on n'a pas les voitures à leur maximum, on a un peu de l'improvisation. Donc oui, c'est bon pour le spectacle, mais en même temps, ça enlève un peu le côté hyper performance du sport. Donc ça, c'est mon opinion, mais c'est tout. Mais c'est ça. L'autre chose à surveiller, là, vous savez, on entend des fois, pas sur le F1 podcast, parce qu'on a des gens très positifs et des grands passionnés de Formule 1, mais on entend un peu partout là, sur le net que oh, c'est déjà réglé, c'est gagné, Verstappen va gagner un autre championnat. Mais là, on a un championnat très serré là, quand même avec ce qui s'est passé. Trois courses, une voiture qui arrête après quatre tours. Tout d'un coup, ça vient tout chambouler un peu le championnat. Puis là, on pourrait bien se retrouver à la fin du week-end. Là. Ça, c'est en jeu pendant le week-end. On a 6 pilotes qui pourraient prendre la tête au championnat des conducteurs, le championnat des pilotes. T'sais, on n'aurait pas vu ça venir. Là. Les gens qui donnaient déjà les championnats du monde, puis ah, c'est facile de gagner en Formule 1, il y avait ces théories-là. Mais là, on a 6 pilotes. Pardonnez-moi, encore un petit restant de grippe. On a 6 pilotes qui pourraient terminer le week-end de course en tête du championnat. Puis on a 3 écuries qui pourraient s'emparer de la tête au championnat des constructeurs. Donc ça va être intéressant à voir au cours du week-end. Une petite erreur stratégique, 2 voitures qui passent devant, n'importe quoi. Là, il va y avoir une certaine tension. Il y a un enjeu. C'est sûr que ça ne règle pas un championnat. C'est pas qu'après 4 courses que tu t'empares de la tête que tout d'un coup, tout est changé. Sauf que ça donne un peu d'intérêt de voir que 6 pilotes, 3 écuries, tout le monde, tu sais, juste prendre la tête là, un petit peu pour Ferrari, là, ça peut aider psychologiquement. Ça donne un d'encouragement à l'usine, ça donne des espoirs aux pilotes, ça donne des espoirs à tout le monde qui travaille fort autour, aux partisans, tout ça. Donc, il y a beaucoup en jeu pour le week-end. Je pense quand même que Red Bull va être favori parce que on a apporté des améliorations. On l'a dit en début, je vous en parlais un peu plus tôt au début de la chronique, comme quoi que c'est un circuit normalement qui leur sourit. Verstappen était pratiquement imbattable la saison dernière. Là, en plus, il arrive avec encore plus le couteau entre les dents à cause de ce qui s'est produit en Australie. Donc, je pense toujours qu'ils sont favoris, sauf qu'il y a un enjeu pour plusieurs écuries et pour plusieurs pilotes, donc 6 pilotes. Donc ça va être à surveiller au courant du week-end. Donc, à ne pas manquer, je sais que c'est aux petites heures du matin, vous allez peut-être l'écouter en rediffusion, mais autant les qualifications risquent d'être très intéressantes à cause qu'on a tout ce facteur-là inconnu, à cause qu'on s'est fait enlever une séance d'essai libre. Oui, on en a un autre demain là, qu'on peut se reprendre, sauf que normalement, les pilotes aiment pas faire des gros essais le matin avant les qualifications. On veut juste un peu attraper le rythme, aller se promener un peu en piste, là, voir un peu saisir ce qui se passe, les conditions, tout ça. Mais normalement, on prend pas de gros risques. On ne sait pas des gros programmes de course ou des gros tours canons le samedi matin. Donc, c'est sûr que là, à cause qu'on a du rattrapage à faire, on va peut-être pousser un peu plus, mais on va quand même rester un peu plus conservateur. On est vraiment en mode qualification. On veut pas prendre de risques inutiles. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Tout le monde part un peu en terrain inconnu. Donc, ça change un peu la donne pour le week-end. Ça met de l'action. Ça va être intéressant à suivre, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être, on va avoir encore une fois un circuit, un Grand Prix intéressant, surtout au Japon. C'est un circuit de vitesse. Oui, c'est pas toujours la meilleure place pour des dépassements, mais il peut arriver bien des choses, surtout des erreurs, parce que ça pardonne pas. C'est un circuit, comme on disait, le coefficient de difficulté est très élevé, donc une petite erreur, parlez-en Logan Sargeant, ça arrive très rapidement, puis d'un coup, on perd notre voiture. Autant en qualification, on peut avoir des drapeaux rouges qu'en course, donc ça va être intéressant. Grand Prix à ne pas manquer et séance de qualification, non plus. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 5 avril. En terminant, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne Spotify, question de recevoir les notifications lors de la publication des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, même si on est plus concentré sur Facebook, vous pouvez nous lire là-dessus, mais on est aussi sur toutes les autres plateformes. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur X, ainsi que sur YouTube. En terminant, je vous remercie d'avoir fait confiance au F1 Podcast et de continuer à nous faire confiance. Et je vous souhaite un bon week-end de course.